France Inter.
Voici le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. C'est un désastre humanitaire qui se profile et les conséquences pourraient être sans précédent. Voilà ce que dit ce matin le Premier ministre libanais alors que les frappes sont toujours très intenses. 123 morts, plus de 80 000 personnes déplacées depuis le début de l'opération menée par Israël, notamment dans le sud du pays, où l'on va retrouver notre envoyé spécial dans les prochaines minutes. Israël qui poursuit par ailleurs sa guerre contre le régime iranien et qui parle d'une nouvelle phase. On essaiera de comprendre ce que ça veut dire. On fera le point aussi sur la question épineuse des rapatriements. 5000 Français bloqués dans les pays du Golfe ont demandé l'aide pour rentrer en France. Et puis aux États-Unis, le nom de Donald Trump réapparaît dans les dossiers Epstein. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
C'est le ministère américain de la Justice qui publie de nouveaux documents.
Ces notes du FBI évoquent des accusations non étayées d'agression sexuelle. Accusations contre Donald Trump dans les années 80. Documents qui avaient dans un premier temps été retirés des dossiers Epstein et finalement publié hier.
Et vous viendrez nous préciser tout cela tout à l'heure. L'actualité, c'est aussi l'enquête sur la mort de Quentin Derenck qui se poursuit à Lyon. Deux nouveaux suspects présentés à un juge d'instruction en ce moment et puis cette opération d'ingérence russe qui vise pour la première fois un candidat au municipal. Bonjour Noé Miller.
Bonjour.
Il s'agit en l'occurrence de Pierre-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris.
Oui, il est au cœur d'une tentative d'ingérence, accusé dans un faux clip de campagne de vouloir transformer le centre Pompidou en centre d'accueil pour migrants.
Merci Noé. À tout à l'heure. Et puis combien de médailles la France va-t-elle réussir à décrocher aux Jeux Paralympiques à quelques heures de la cérémonie d'ouverture? Deux invités à 13h30, la championne de snowboard cross Cécile Hernandez qui vient chercher un nouveau titre et puis Marie Bochet qui est chef de mission de la délégation française, toutes les deux avec nous depuis Cortina. Et j'attends vos questions, 01 45 24 7000. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
C'est un pays qui a déjà traversé bien des épreuves ces dernières décennies. La guerre, la crise économique, l'instabilité politique. Le Liban est-il à l'aube d'un désastre humanitaire? C'est ce que craignent en tout cas les autorités libanaises face à ces frappes qui se poursuivent dans la banlieue de Beyrouth, dans le sud du pays où l'on va se rendre dans un instant et où des soldats israéliens sont entrés dans le but d'établir une zone tampon. Des milliers de familles sont jetées sur les routes, raconte Sandrine Simon, directrice adjointe de l'ONG Médecins du Monde.
Oui, on fait face à des besoins d'une ampleur dramatique aujourd'hui, à la fois en termes de santé physique, de capacité de répondre aux besoins de santé des personnes, de capacité de répondre aux blessés qui affluent. C'est une difficulté déjà d'acheminement de matériel médical sur place, du fait des lignes aériennes qui sont peu fonctionnelles. Aujourd'hui, on confirme 83 000 nouveaux déplacés, mais le gouvernement libanais, ce matin, évoquait jusqu'à 1 million de déplacés en cas de poursuite des combats. Des personnes qui prennent refuge dans les familles comme ils peuvent. Certains vivent dans leur voiture. Les conséquences sanitaires et même de vie des personnes sont dramatiques aujourd'hui.
Sandrine Simon de l'ONG Médecins du Monde, interrogée tout à l'heure sur France Info. Alors justement, allons dans le sud du pays, dans la zone concernée par l'ordre d'évacuation de l'armée israélienne. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Vous vous trouvez dans un village à 10 km de la frontière avec Israël. Alors quel est le climat sur place?
Eh bien, quand on roule dans les rues de Marjayoun, on a tout de suite le sentiment que la vie s'est ralentie. Il n'y a presque pas de voitures, les banques sont fermées. On voit essentiellement des véhicules militaires, des convois de la FINUL de l'ONU et des camions pour le ravitaillement. Marjayoun n'est pas coupé du monde, mais c'est une enclave chrétienne à côté des villages chiites. D'ici, on voit la frontière israélienne. La plupart des habitants sont partis. Ceux qui restent ont mutualisé leur sort avec celui de 6 autres villages chrétiens. Il reste en tout et pour tout dans ce secteur entre 2 et 3 000 personnes.
Et est-ce qu'il y a des combats, Étienne? Est-ce qu'il y a des frappes?
Alors, depuis que nous sommes arrivés, il y a environ 2 heures, on a entendu le passage d'un avion et 3 bombardements. On perçoit aussi régulièrement les échos des tirs à l'arme automatique. Marjayoun est en face d'un des secteurs les plus disputés, Qiyam, dans lequel les soldats israéliens ont pris pied. Mais les habitants ici disent qu'ils n'ont pas l'impression qu'il y a véritablement une résistance au sol, contrairement à ce que dit le Hezbollah. Marjayoun est donc en quelque sorte un mirador sur les combats. Mais les chrétiens considèrent que ça n'est pas leur guerre. Ils ne se sentent pas concernés, pas ciblés. Ils comptent rester ici, y compris en cas d'invasion israélienne. Ils ne souhaitent pas laisser leur maison potentiellement au Hezbollah.
Merci Étienne Monin avec Martin Troadec, envoyé spécial de France Inter. Dans le sud du Liban, parlons maintenant de l'autre front de cette guerre, car Israël continue de frapper l'Iran. Un responsable iranien affirme que 20 personnes ont été tuées à Shiraz, dans le sud du pays. Le chef d'état-major de l'armée israélienne parle de frappes à grande échelle, évoque aussi l'entrée dans une nouvelle phase de la guerre. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour.
En direct de Jérusalem. Alors prenons les choses dans l'ordre, Thibault. Si l'on parle d'une nouvelle phase, c'est que la première phase est atteinte. Est-ce que ça veut dire est terminée? Est-ce que ça veut dire que les objectifs ont été atteints?
Oui, plusieurs objectifs ont en effet été atteints. D'abord, vous le savez, les principaux leaders du régime iranien ont été tués. Plusieurs frappes massives, soudaines, samedi dernier, sur la base de renseignements très précis, une cinquantaine de morts, dont l'ayatollah Khamenei. Deuxième mission accomplie, la défense anti-aérienne iranienne est désormais quasi inopérante. 80% des radars et des lanceurs de missiles antimissiles sont détruits, selon le chef d'état-major israélien, Israël. Et les États-Unis ont donc quasiment la maîtrise du ciel iranien. Ça veut dire qu'ils peuvent désormais frapper où ils veulent, quand ils veulent, au plus près des cibles, sans craindre de perdre leurs avions.
Et est-ce qu'on sait quels sont les objectifs de cette nouvelle phase de guerre ?
Oui, plusieurs questions. Est-ce que d'abord Israël et les États-Unis veulent une capitulation du régime iranien ou simplement se contenter de détruire ses capacités de nuisance? Alors les Israéliens ont trois exigences. D'abord la disparition de la menace des missiles balistiques et de croisière, puis la destruction du programme nucléaire. Les Iraniens ont encore 450 kilos d'uranium enrichi à 60% caché quelque part sur leur territoire, de quoi potentiellement et très difficilement évidemment fabriquer, selon les autorités de l'État hébreu, plus d'une dizaine de bombes nucléaires, si bien entendu l'enrichissement est poussé à plus de 90%. Enfin, troisième exigence israélienne, l'arrêt du financement par Téhéran de ses alliés dans la région comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen. À voir si le président américain Donald Trump, sous la pression de son opinion publique et sous la pression des marchés, laissera au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le temps d'aller au bout de ses objectifs.
Merci Thibault Lefèvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Le président iranien affirme que des pays ont entamé des efforts de médiation pour mettre fin à cette guerre. Et puis de son côté, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme réclame aux autorités américaines une enquête rapide et transparente sur le bombardement présumé d'une école à Minab en Iran. Le régime iranien affirme que 168 personnes, en grande majorité des enfants, des fillettes de 7 à 12 ans, ont été tuées par une frappe samedi matin. Frappe que ni les États-Unis ni Israël n'ont confirmée. Mais ce matin, une enquête du New York Times suggère sans l'affirmer néanmoins qu'il s'agit d'une frappe américaine. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
De l'agence de vérification de Radio France. Alors que sait-on de cette frappe ?
Eh bien, ce que l'on a établi avec certitude, c'est qu'une école a bien été détruite à Minab, dans le sud du pays. Une école qui était accolée à un complexe militaire du corps de la marine des gardiens de la Révolution, ciblé lui aussi par des frappes. Sur des images satellites que l'agence de vérification a consultées, 6 autres bâtiments situés sur ce terrain militaire adjacent ont été touchés. Avec des frappes de précision, on voit des trous très nets dans certains toits, ce qui ne plaide pas en faveur de la thèse avancée par certains d'un missile iranien qui aurait dévié accidentellement de sa route. Des responsables américains ont par ailleurs admis que leurs forces ont bien mené des opérations dans la région. Une carte d'état-major des frappes le confirme. Ce que précise ce matin l'enquête du New York Times, c'est que ces frappes sur l'école et la base navale sont, selon leurs sources, simultanées. Pour ce qui est du bilan humain de ce bombardement, en l'absence de vidéos indépendantes montrant un grand nombre de corps d'enfants, le chiffre fourni par les Iraniens n'est à ce stade pas encore vérifiable. Des vidéos montrent néanmoins des secouristes en action et les images de cette école aux deux tiers détruite, si elle était pleine d'enfants et il y a école le samedi en Iran, rendent crédible un bilan humain très lourd. Des images de funérailles avec plusieurs dizaines de cercueils ont par ailleurs été diffusées par les autorités iraniennes.
Merci Angélique Boin, agence de vérification de Radio France. Et puis les frappes se poursuivent aussi dans les pays du Golfe. Des bases aériennes visées ces dernières heures au Qatar, en Arabie Saoudite, un hôtel, des immeubles touchés à Bahreïn. L'Ukraine a d'ailleurs proposé son aide. Des militaires ukrainiens spécialisés dans la lutte contre les drones sont ainsi attendus dans le golfe Persique. Tout cela complique en tout cas le retour des Français bloqués sur place puisque les vols commerciaux sont toujours suspendus. Hier, un avion affrété par les autorités françaises pour aller chercher des ressortissants à Dubaï a dû faire demi-tour pour des raisons de sécurité. Bonjour Luc Chemelin.
Bonjour.
Mais aujourd'hui, le gouvernement se veut rassurant. Les vols de rapatriement avions vont reprendre.
Ah oui, d'une manière ou d'une autre, nous allons continuer ces vols, affirme le ministre des Transports, et dans les meilleures conditions de sécurité, ajoute Philippe Tabarot. Plusieurs vols sont déjà en train d'être programmés pour rapatrier des Français dès aujourd'hui, et l'exécutif compte demander aux compagnies de reprendre leurs vols commerciaux. L'avion Air France, qui a fait demi-tour à cause donc de tirs de missiles, est lui actuellement au Caire avec son équipage et attend de nouvelles consignes pour une possible nouvelle mission de rapatriement. D'après le Quai d'Orsay, depuis le début de la guerre, 5000 Français se sont manifestés pour revenir dans l'Hexagone le plus vite possible et environ 2000 sont déjà rentrés.
Et puis Luc, il y a aussi les étrangers qui sont bloqués dans des bateaux à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz. 15 000 croisiéristes, 20 000 marins sur les pétroliers, sur les ports conteneurs, et parmi eux, il y a des équipages français. Et
oui, notamment du groupe Louis Dreyfus, armateur poids lourd du secteur. Un équipage d'une soixantaine de marins est actuellement bloqué sur leur navire dans un port en Arabie Saoudite avec interdiction d'y sortir. Un bateau qui était dans la zone avant la guerre pour installer des câbles sous-marins de télécommunication. Son président, Édouard Louis Dreyfus, fait des points quotidiens avec le commandant et l'équipage.
Pour l'instant, l'ambiance à bord est plutôt apaisée. On les a interrogés pour savoir ceux qui étaient volontaires pour rester, ceux qui voulaient être rapatriés dès que possible. C'est à peu près moitié-moitié, donc on a réparti l'équipage entre ces deux catégories. Ceux qui veulent être rapatriés savent que ça ne va pas se passer tout de suite. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de visibilité précise sur la manière dont on peut les faire sortir.
Et hier, le détroit d'Ormuz, le Golfe et le Golfe d'Oman ont été classés zone d'opération de guerre, ce qui offre aux marins le plus haut niveau de sécurité possible selon les normes maritimes, dont celui de demander un rapatriement aux frais de l'armateur et de refuser de naviguer dans la région.
Et puis l'autre conséquence, merci Luc Chemla, de cette fermeture du détroit d'Ormuz, c'est l'acheminement du pétrole, du gaz rendu plus difficile, les cours qui augmentent et ça se voit dans les stations-service avec une hausse de 5 à 20 centimes par litre selon le décompte du gouvernement. Alors certains travailleurs commencent à s'en inquiéter. Lison Bourgeois, exemple dans la Drôme.
Pour certains, la voiture est indispensable. Les infirmiers libéraux drômois, par exemple, peuvent faire jusqu'à 200 km par jour. Stéphane Adam est infirmier libéral à Cré et président de la Fédération nationale des infirmiers dans la Drôme.
Ce qui peut se passer pour d'autres professions, c'est que lorsque vous avez des coûts supplémentaires sur le pétrole, vous allez augmenter le coût de votre produit à la fin. Le boulanger peut augmenter le coût de son pain. Les professionnels de santé comme nous, on est conventionnés. Tel soin, c'est tel prix. Lorsqu'un infirmier fait un déplacement chez une personne, c'est 2,75 €.
Les infirmiers demandent notamment le remboursement de la taxe sur les produits énergétiques dont bénéficient les taxis.
Oui, allô ?
Aurélien Ozas est conducteur de taxi et président du syndicat en Ardèche. Il fait notamment du transport médical.
Nous, taxis ruraux, vu la nouvelle convention de la sécurité sociale, on est obligé de prendre des grosses voitures, de transporter plusieurs personnes en même temps. J'ai fait le plein tout à l'heure, 118 €.
Pour éviter les faillites, il demande une revalorisation des tarifs de la sécurité sociale. Dans ses champs, à Montpellier, Vladimir Gauthier, le vice-président des JA de la Drôme, doit aussi faire face à l'augmentation du prix du GNR. C'est le carburant qu'il met dans ses tracteurs.
Aujourd'hui, le prix du GNR est à peu près à 1 € le litre, alors qu'il y a 15 jours, 3 semaines, il était autour des 65 centimes le litre. Sur ma ferme, on passe à peu près 20 000 litres par an. Ça fait un gros, gros chèque à la fin de l'année.
La FNSEA a d'ailleurs demandé à Bercy des contrôles sur cette hausse du prix du GNR.
Reportage Lison Bourgeois, ici Drôme Ardèche. Et puis la France Insoumise dépose dans ce contexte une proposition de loi pour bloquer les prix des carburants. L'État doit protéger nos concitoyens, écrit Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Les agriculteurs, on l'entendait dans le reportage, inquiets des prix dans les stations-service, mais aussi inquiets des prix des engrais. 30% des engrais azotés passent par ce fameux détroit d'Ormuz. Et dès les premiers bombardements, samedi, l'urée, qui est le principal fertilisant utilisé, est passée de 505 € la tonne à 580, de quoi inquiéter les céréaliers. Écoutez Olivier Ardouin, c'est le président de la FNSEA du Loir-et-Cher.
C'est une folie parce qu'on a eu justement des fournisseurs qui nous ont indiqué des prix vendredi. Les mêmes fournisseurs lundi nous ont expliqué une hausse de 15% des engrais et ça a continué de progresser sur cette semaine. Donc c'est assez impressionnant sur le prix, mais surtout sur la disponibilité. On est sur une période d'une reprise de végétation là, sur le printemps qui arrive Et donc, c'est là où on a besoin d'amender nos cultures, que ce soit sur des oligo-éléments, que ce soit sur des engrais, pour justement commencer à semer. On a recommencé à semer cette semaine. Et donc, soit pas d'engrais ou de l'engrais extrêmement cher. Bon, on a de grandes craintes, voilà, parce qu'on va exploser nos coûts de production, alors que déjà, on a un fort déphasage entre le prix auquel on vend nos marchandises et nos coûts de production, quoi. Donc, c'est une menace encore plus importante sur notre productivité et, si on va plus loin, sur notre souveraineté alimentaire, quoi.
Olivier Ardouin de la FNSEA au micro de Mathilde Cariou. Alors, face à toutes ces difficultés, face à la montée des prix de l'énergie, faut-il assouplir les contraintes environnementales? On sent que les pressions se font de plus en plus fortes. On va en parler avec vous, Sandy Dauphin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le viseur, il y a notamment le marché carbone, hein, ce système de quotas mis en place par l'Europe il y a 20 ans. Et aujourd'hui, la première ministre italienne demande une grande réforme.
Oui, ce marché carbone, baptisé ETS, est l'un des outils clés de la politique climatique européenne. Les entreprises qui émettent beaucoup de CO2 doivent acheter des droits à polluer, autrement dit des quotas de CO2. C'est le cas des centrales à gaz ou à charbon qui produisent de l'électricité, de l'industrie lourde comme l'acier, la chimie, le ciment ou encore des compagnies aériennes. Le but est d'inciter ces industriels à investir dans des technologies plus propres. Mais ce marché carbone est sous le feu des critiques de l'Italie, vous le disiez, mais aussi de la Hongrie, de la Pologne ou encore de la Slovaquie. Ce qui inquiète beaucoup Nel Makarov, expert climat, directeur de Strategic Perspective, cercle de réflexion européen.
C'est une mauvaise réponse à une vraie crise des prix de l'énergie. Le véritable problème dans les prix de l'énergie, ce n'est pas les politiques de décarbonation, c'est notre dépendance aux importations de gaz, de pétrole et de charbon qui ont coûté à l'économie européenne près de 400 milliards d'euros en 2025 et la facture risque fortement d'exploser en raison de la crise géopolitique. Nos dirigeants européens devraient plutôt s'atteler à régler cette dépendance énergétique plutôt que s'attaquer au marché carbone européen.
Un marché carbone soutenu par la France, l'Espagne et plusieurs pays nordiques comme la Finlande. Mais l'Europe est plus que jamais divisée. Les débats s'annoncent donc animés lors du prochain sommet européen le 19 mars à Bruxelles, consacré notamment à la compétitivité économique.
Merci Sandy Dauphin, spécialiste environnement. Venons-en à ce nouveau développement aux États-Unis. Dans l'affaire Epstein, Camille Marigot, on vous retrouve. Le ministère de la Justice américain a donc publié hier de nouveaux documents contenant des accusations à l'encontre de Donald Trump. Ces documents décrivent des entretiens menés par le FBI avec une femme qui l'accuse d'agression sexuelle. C'était dans les années 80, quand il n'était encore qu'un magnat de l'immobilier.
Et des entretiens menés en 2019 par le Bureau fédéral d'investigation avec une femme dont l'identité a été caviardée, qui assurait alors avoir été agressée par Donald Trump dans les années 80, donc quand elle était mineure et que lui n'était pas encore à la Maison Blanche. Cette femme, dont on ignore tout, donc, s'était manifestée un peu après l'arrestation du criminel sexuel Jeffrey Epstein au cours de 4 entretiens. Elle avait d'abord assuré avoir été présentée par Jeffrey Epstein à l'homme d'affaires Trump, que ce dernier avait abusé d'elle avant de refuser d'en dire davantage sur cette affaire. Les pages publiées hier avaient en grande partie été retirées des dossiers Epstein par le ministère de la Justice, qui estimait que ces entretiens faisaient doublon avec d'autres documents. Ils ont finalement été publiés sous une certaine pression politique, peut-être. La semaine dernière, le chef de file des sénateurs démocrates a accusé l'administration Trump de dissimulation massive. S'il a effectivement côtoyé Jeffrey Epstein à une époque, le président américain lui répète qu'il n'a jamais eu connaissance ni été complice de son comportement criminel.
Merci Camille Marigot pour toutes ces précisions.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Et tout ce contexte géopolitique que l'on vient de décrire, ces tensions aux portes de l'Europe, eh bien, il s'invite dans la campagne des municipales J-9 avant le premier tour du scrutin. Et l'on apprend aujourd'hui que l'un des candidats à la mairie de Paris a été visé par une attaque informationnelle venue de Russie, une opération désinformation qui touche donc Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon Renaissance, et Viginum, le service de l'État qui surveille les ingérences numériques étrangères, qui l'a détecté. Derrière cette opération, eh bien, on trouve un réseau russe Storm 15-16, déjà l'origine de plusieurs faux sites d'information pour tenter d'interférer dans les élections municipales. Mais cette fois, Noé Miller, c'est donc la première fois qu'un candidat est directement ciblé.
Oui, c'est une vidéo qui a attiré l'œil des spécialistes de la lutte contre la désinformation mercredi. Une sorte de clip de campagne dans lequel on voit des personnes présentées comme étant des migrants devant la mairie de Paris, avec cette proposition attribuée à Pierre-Yves Bournazel, les accueillir dans le centre Pompidou.
Actuellement, le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou est vide, remplissant-le de dignité. Votez oui
pour transformer ce bâtiment emblématique en un foyer pour tous, Kiev et pour Nazel, avec le soutien du président de la République Emmanuel Macron. Un toit pour tous, Paris pour tous.
C'est évidemment une fausse proposition relayée par plusieurs faux comptes sur X, mais aussi sur un faux site de campagne, Macron avec Bournazel.fr. À travers le candidat au municipal, c'est donc aussi le président de la République qui est visé. Pierre-Yves Bournazel dénonce une tentative de déstabilisation du débat public.
Ces faits sont graves, c'est des ingérences absolument inacceptables et je compte sur la vigilance de l'ensemble des services pour mettre face à leurs responsabilités ces acteurs de la manipulation et de la désinformation.
Le site et la vidéo sont pour le moment toujours en ligne. Hier soir, le faux clip de campagne cumulait 20 000 vues sur X. C'est assez peu par rapport à d'autres opérations de ce groupe russe de désinformation. Mais à l'approche du scrutin, Viginum s'attend à voir d'autres tentatives d'ingérence de ce type.
Merci Noé Miller de l'agence de vérification de Radio France. Tandis qu'à Nice, deux hommes ont été interpellés, soupçonnés d'avoir déposé il y a quelques semaines une tête de cochon, une affiche à caractère antisémite devant le domicile du maire Christian Estrosi. Les deux suspects de nationalité tunisienne nient les faits et doivent être présentés cet après-midi à un juge d'instruction, indique le parquet. Et puis l'enquête se poursuit aussi à Lyon, trois semaines après la mort de Quentin de Ranque. Deux nouveaux suspects arrêtés mercredi sont en ce moment dans le bureau du juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, soupçonnés d'avoir fait partie de ceux qui ont porté des coups aux militants identitaires, et on en sait désormais plus. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Sur la manière dont le travail d'identification a été mené par la police. D'abord, est-ce qu'on peut dire que les enquêteurs ont désormais arrêté tout le monde, tous ceux qui sont directement impliqués dans le passage à tabac?
C'est en tout cas leur conviction avec l'interpellation avant-hier de ces deux suspects. Reste à savoir si les éléments accumulés ces derniers jours convaincront les juges d'instruction et si ces deux hommes mis en cause seront à leur tour, dans les heures qui viennent, mis en examen pour meurtre et association de malfaiteurs. Le procureur de Lyon, dans un communiqué, a annoncé avoir requis leur placement en détention provisoire.
Alors, comment ont-ils été identifiés, Emmanuel ?
Eh bien, selon plusieurs sources proches de l'enquête, la plupart des suspects déjà interpellés apparaissent à visage découvert 5 minutes avant la première rixe sur les images de vidéoprotection que la police judiciaire a pu récupérer. Et ensuite, les enquêteurs ont pu comparer avec les nombreuses vidéos tournées par des témoins, des résidents, en particulier lors du passage à tabac de la victime au sol. Ainsi, pour les deux principaux suspects, auteurs présumés des coups de coude et des coups de pied les plus violents, ce sont leurs chaussures qui ont permis de les identifier.
Et maintenant, sur quoi va porter l'enquête ?
Alors, il reste en réalité trois suspects à interpeller qui sont dans le viseur des enquêteurs, mais pas pour le lynchage, cette fois, des personnes identifiées pour leur participation à la première rixe, des hommes qui auraient agi sous les ordres donnés ce jour-là par Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Et c'est le deuxième volet de cette enquête, confiée aux unités spécialisées sur l'ultra-gauche de la gendarmerie et de la direction antiterroriste de la police judiciaire. L'objectif étant d'établir ou d'écarter le possible lien entre le député et son assistant parlementaire ce jour-là pour la sécurisation notamment de la conférence de la députée européenne LFI Rima Hassan.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. À Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis, les bénévoles qui tentaient de retrouver Madoua annoncent avoir mis fin à leur recherche. Cet enfant autiste de 4 ans a disparu la semaine dernière alors qu'il était dans un parc de jeux avec sa mère. Les proches indiquent que les images de vidéosurveillance ont permis d'établir que le petit garçon est tombé dans l'eau. De nombreux policiers et pompiers sont également mobilisés pour tenter de le retrouver. À La Rochelle, les enquêteurs tentent de mieux comprendre pourquoi un collégien de 13 ans a poignardé mercredi l'un de ses camarades en plein cours. L'agresseur dit avoir agi par vengeance contre la victime qu'il n'appréciait pas. L'agressé lui est sorti du bloc opératoire. Son état est désormais stable et tout cela a bouleversé les élèves, les enseignants du collège Beauregard. Hier, une fouille généralisée des sacs a aussi été menée par la police devant l'établissement Éric Le Bihan.
Les filles sont séparées des garçons pour permettre une fouille généralisée des sacs dans une ambiance pesante. Des parents d'élèves sont encore chamboulés.
Non, j'ai pas envie de parler, je connais les victimes.
Des parents qui, autant que faire se peut, ont écouté et rassuré leurs enfants, encore traumatisés par l'agression.
Moi, j'étais pas bien après cet événement. Je peux pas rester seule parce que j'ai forcément la crainte. J'ai échangé avec ma mère, qui m'a dit qu'on était en sécurité, mais qu'on craignait toujours des choses.
Après, les parents, ils nous ont dit que ça arrivait un peu partout aussi.
Oui, parce que je pense qu'il y a des élèves, ils ont vraiment paniqué, ils ont vu des choses aussi horribles et tout, donc...
Au volant de sa voiture, Anthony consent à baisser sa vitre. Il vient de déposer son fils.
Oui, il faut en parler. Je pense qu'il faut crever un peu l'abcès parce qu'il y a eu pas mal d'échos sur ce qui s'est passé, etc. Ouais, c'était un peu compliqué. Le rassurer sur le fait que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, hein, que ça n'arrive pas non plus tous les jours. Et surtout de parler s'il y a des problèmes, peu importe qui l'entend ou le concernant directement.
Debout près de sa voiture, Cindy regarde sa fille se diriger vers le collège.
Très très important d'en parler, de désamorcer, qu'elle se vide, ce qu'elle a sur le cœur, etc. C'est très très important.
En tant que parent, vous avez vécu ça comment, à distance?
J'étais très choquée. Même encore, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai très mal dormi. C'est très inquiétant, moi, je trouve. On confie nos enfants qui sont en sécurité, et puis finalement, on se rend compte que pas tellement, en fait.
Éric Le Billon, ici, La Rochelle. La liste des pays qui veulent interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes s'allonge. L'Indonésie annonce une interdiction en moins de 16 ans, invoquant les menaces de pornographie, de cyberharcèlement, de fraude. L'Australie avait déjà mis en place cette mesure, alors qu'en France, les députés ont voté pour une interdiction des réseaux au moins de 15 ans. Et puis justement, attention aux faux billets vendus en ligne. Un homme suspecté d'avoir vendu de faux tickets pour assister à des matchs du PSG vient d'être mis en examen. Il les vendait via un compte sur TikTok. La première estimation du préjudice se situe entre 350 et 400 000 euros selon les informations de Radio France. L'actualité sportive, c'est le début ce soir des Jeux paralympiques d'hiver. On va en parler avec nos invités dans quelques minutes. Mais c'est aussi le début de la nouvelle saison de Formule 1. Le Grand Prix d'Australie aura lieu dimanche et un jeune Français a bien l'intention de marquer la saison. C'est Isaac Hadjar, 21 ans, qui rejoint la prestigieuse équipe Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Guillaume Batin.
Isaac Hadjar est désormais le coéquipier du quadruple champion du monde néerlandais et c'est l'exemple qu'il veut suivre, car Hadjar rêve depuis toujours de porter la couronne mondiale de la Formule 1. Encouragé par son père, algérien, pilote amateur, sa passion est née en regardant les exploits de Flash McQueen dans le dessin animé Cars.
Mais hé, il n'y a personne d'autre ici, alors on pourrait rouler aussi vite qu'on veut. On fait la course.
Et il a le profil d'un champion du monde. Le surdoué remporte ses premières courses à l'âge de 8 ans quand il prend le volant d'un karting. Et dans les catégories suivantes, il est très vite repéré par l'écurie autrichienne. Isaac Hadjar est devenu le plus jeune pilote français de l'histoire à monter sur un podium de la F1 avec sa troisième place au Grand Prix des Pays-Bas la saison dernière, à 20 ans.
Auriez-vous pu imaginer cela en tant qu'enfant?
Oui, ça a toujours été l'objectif depuis que je suis petit.
Et il semble déjà très à l'aise avec une belle cinquième place des essais de pré-saison à Bahreïn. J'ai 21 ans, dit-il. Je peux rouler jusqu'à 40 ans. Je me donne donc 20 ans pour devenir champion du monde.
Et le Grand Prix d'Australie de Formule 1, ce sera donc dimanche matin, départ donné à 5h, heure de France. Et puis on s'en doutait, c'est finalement confirmé. C'est bien Monroe, la jeune gagnante de l'émission Prodige, qui représentera la France au prochain concours de l'Eurovision. Ce sera à Vienne au mois de mai prochain. C'est ce que dit ce matin France Télévisions. Et je vois Julien Baldacchino qui brandit le drapeau français, déjà prêt à soutenir les chances de la jeune candidate du camp français. 13h27, restez avec nous sur France Inter. Dans les prochaines minutes, les prévisions météo de Sophie Briand pour voir ce que le week-end nous réserve. On prendra ensuite la direction de Cortina en Italie, car les Jeux paralympiques débutent officiellement ce soir avec la grande cérémonie d'ouverture. Alors, quelles sont les chances de médailles pour les para-athlètes français? Marie Baucher sera avec nous, chef de mission de la délégation française. Cécile Hernandez également, qui va tenter de décrocher un nouveau titre en snowboard cross. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour elle. 01 45 24 7000. Notre feuilleton dans les rayons du bazar d'électricité, l'un des plus vieux magasins de Paris, 140 ans d'existence, et il faut penser à l'avenir, faire face à de nouvelles concurrences. On verra ça dans l'épisode du jour. 13h50, c'est la France des océans et des cimes, avec vous chaque vendredi. Bonjour Virginie Troussier.
Bonjour Céline.
Et on va parler aujourd'hui du vent.
Oui, le vent façonne les paysages, régule le climat et influence même nos humeurs. Mais que sait-on vraiment de cette force invisible? On en parlera ensemble.
Et bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour Céline.
Bon, en attendant l'Eurovision, c'est une chanson qui est à votre micro aujourd'hui.
Régis Laspalès, qui est sur scène et seul en scène à Paris, qui nous parle de Charles Aznavour et de Je me voyais déjà.
Merci à tous les deux, à tout de suite.
Je suis né en Palestine, une terre en larmes et en sang. Je suis aujourd'hui moine à Bethléem. Le prieur de Bethléem, le nouveau roman de Yasmina Kadra, aux éditions Flammarion.
Ce vendredi, jackpot Euromillions de près de 190 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
S comme S-Line, S comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, la finition iconique Audi S-Line est offerte sur une large sélection de modèles. Plus qu'une finition, une signature emblématique et sportive. Profitez-en dès aujourd'hui sur l'Audi A3 Sportback hybride rechargeable ou l'Audi Q6 Citroën. Réservez votre essai personnalisé sur audi.fr.
Finition S-Line offerte pour tout achat ou location longue durée d'un modèle éligible dans le réseau participant, voire conditions sur audi.fr.
Pensez à covoiturer.
Le ciel à 13h29.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature. Par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Sophie Briard.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Alors le ciel est bien couvert, on n'avait plus l'habitude, oui, sur la façade ouest du pays cet après-midi.
Oui, accompagné d'averses localement, de la Normandie à la Bretagne jusqu'au sud-ouest, et de la neige est même attendue dès 1800 mètres sur le massif pyrénéen. Ce temps couvert s'étend sur tout le pourtour méditerranéen et les pluies sont beaucoup plus soutenues dans le golfe du Lion, accompagné d'un vent d'est qui souffle de 50 à 70 km/h. Des Hauts-de-France au bassin parisien jusqu'au Lyonnais, les Alpes du Sud, le ciel est voilé, mais lumineux, lié en entre autres aux poussières du Sahara hein, qui se trouvent en altitude. Si vous avez la peau toute jaune et du sable sur les voitures, c'est normal. Et sur le nord-est, des Ardennes aux Alpes du Nord, en passant par la Bourgogne et le Grand Est, le temps est calme et bien lumineux. Et pour tout le week-end, on va retrouver ce scénario à peu près. Hein.
Et la douceur bien installée.
Oh oui, nous sommes de 4 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et cela va durer jusqu'à jeudi prochain. Vous avez cet après-midi de 14 à 20 degrés sur la majeure partie du pays. 20 à Paris et Lyon, 19 à Marseille et Arras, 17 à Bordeaux et Colmar, 14 à Biarritz, un peu plus frais en Bretagne de 10 à 12.
Merci Sophie Briat.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
600 athlètes de 56 pays, 10 jours de compétition et des Français et des Françaises qui espèrent bien s'installer sur la plus haute marche du podium. Voilà pour ces Jeux paralympiques qui commencent officiellement ce soir avec la grande cérémonie d'ouverture organisée dans le cadre majestueux des arènes de Vérone. Et deux championnes pour en parler avec nous. Bonjour Marie Bauchet.
Bonjour.
Alors vous avez été plusieurs fois médaillée en paraski, vous êtes désormais chef de mission de la délégation française. Et bonjour à vous Cécile Hernandez.
Et bonjour.
Championne paralympique de snowboard cross en quête d'une nouvelle médaille d'or à Cortina. Vous êtes vous Cécile l'une des deux porte-drapeaux de la délégation française, mais vous ne serez pas ce soir à Vérone. Alors expliquez-nous pourquoi c'était trop compliqué de faire le déplacement depuis Cortina.
C'est un peu ça, oui. Il y a des questions logistiques qui font que c'est compliqué de réunir les athlètes, tout en sachant que nous, les hostilités ou les festivités ont déjà commencé parce qu'on était en entraînement depuis déjà mercredi. Les skieurs, c'est pareil. Le nordique, c'est pareil. Donc, du coup, c'est quand même compliqué de rassembler tout le monde. On pense d'abord à l'intégrité physique et à la santé physique des athlètes pour qu'ils soient en forme sur les pistes. Et voilà, le fait que les sites soient éclatés, le parti pris a été fait de ne pas inviter les athlètes à la cérémonie, mais de faire quand même une très belle cérémonie. Je doute pas, justement, dans ce cadre somptueux, je ne doute pas que la cérémonie va être absolument sublime.
Ça sera sans doute sublime, effectivement. Est-ce que vous allez la regarder, peut-être avec l'autre porte-drapeau d'ailleurs, le paraskieur Jordan Broisin? Est-ce que vous vous dites quand même qu'il faut y être par l'esprit, il faut y être physiquement?
Oui, oui. Alors, sans vouloir vendre la mèche, mais en titillant quand même la curiosité, on a fait quand même des petites choses qui vont faire vivre avec les athlètes la cérémonie. Et nous, on s'est dit, on a un petit club France au village, et on s'est dit qu'on allait certainement se réunir. Chacun partira à l'heure qu'il aura envie de partir, pour ce que demain, on rentre dans le vif du sujet sur les grandes échéances des compétitions. Pour les alpins et les snowboarders. Donc du coup, en tout cas au village de Cortina, on a prévu de se réunir pour la regarder ensemble.
Il y aura un clin d'œil, si j'ai bien compris. Alors ça va être une cérémonie d'ouverture un peu particulière, aussi parce qu'il y a plusieurs pays qui ont décidé de la boycotter. On va le signaler pour protester contre la réintégration de la Russie lors de ces Jeux paralympiques. Marie Bauchet, vous avez connu d'autres Olympiades. Est-ce qu'il y a quand même un petit regret que la délégation française ne vive pas cette fois une grande cérémonie consensuelle participative? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retenu des précédents Jeux paralympiques auxquels vous avez participé?
J'ai eu la chance de participer à 4 éditions de Jeux Paralympiques et à chaque fois, ça a été différent. J'ai participé effectivement à des cérémonies d'ouverture, aussi en tant que porte-drapeau comme Cécile. Mais j'ai aussi fait le choix, sur certaines éditions, de ne pas me présenter à la cérémonie d'ouverture parce qu'il y avait des objectifs le lendemain et je n'ai jamais regretté quand j'ai eu la médaille autour du cou sur la course du lendemain. Donc c'est vrai que c'est toujours un choix qui est difficile pour les athlètes d'y aller, de ne pas y aller. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question ne s'est pas posée très longtemps étant donné que tous nos athlètes sont sur les sites de compétition et en compétition dès demain. Je pense que voilà, là, le temps est à la priorité sportive et qu'on appréciera la cérémonie de clôture et on appréciera les performances plutôt à la fin des Jeux.
Alors vous venez dans un rôle un peu particulier, différent en tout cas des précédents Jeux paralympiques. Vous êtes désormais chef de mission de la délégation française. Ça va être quoi votre rôle, Marie Bauchet? Est-ce que ça va être de s'assurer que tout le monde va bien?
C'est déjà effectivement la priorité. Il y a effectivement ce partage d'expérience au sein de l'équipe, avec les athlètes, avec les staffs, avec le comité paralympique et sportif français. Et puis il y a aussi ce rôle d'animation, parce que comme vous l'avez dit, l'équipe va être scindée sur deux villages, sur deux sites loin. Et donc c'est vrai qu'on a aussi cette volonté d'avoir cette cohésion d'équipe, parce que ça crée une émulation qui est toujours très favorable pour les résultats. Donc on a cette volonté d'animer la délégation et la délégation élargie aussi, parce qu'on revient à proximité de la France, de la maison. Donc les familles vont faire le déplacement, on va avoir des supporters français. Et donc on a vraiment à cœur aussi de les réunir, de leur offrir un lieu où se rassembler pour pouvoir fêter aussi en dehors des lieux de compétition. Et puis aussi ce rayonnement de ces athlètes extraordinaires qui composent cette équipe de France et de leur performance.
Marie Bauchet, est-ce qu'on peut parler des chances de médailles? Parce que finalement, c'est une petite délégation qui est présente cette année à Milan Cortina. On est à 13 athlètes, 4 guides. Est-ce que vous avez tout de même un objectif de médaille important?
Voilà, vous parlez à une ancienne athlète, les objectifs de médaille, c'est toujours
c'est difficile,
moi,
mais maintenant.
C'est un petit peu compliqué d'évoquer, mais oui, on vise effectivement le top 4. En fait, on est une petite délégation, mais avec uniquement des athlètes médaillables, donc avec un très grand potentiel de résultats. Donc effectivement, on a une petite équipe, mais très compétitive. Et donc, oui, on s'apprête à vivre une édition particulièrement réussie et on espère battre effectivement des records. En tout cas, les athlètes nous l'ont montré sur ces derniers jours d'entraînement sur les sites de compétition. Ils ont pu tester ces pistes sur lesquelles ils vont évoluer pendant les 10 jours qui arrivent. Et voilà, ils sont en forme, ils sont prêts et ils ont un potentiel incroyable. Donc, ils vont nous faire vivre assurément de très belles émotions.
L'objectif, c'est 18 médailles, a dit la ministre des Sports, Marina Ferrari, qui était ce matin l'invitée de France Inter. Je ne sais pas si ça vous donne un peu de pression, mais en tout cas, le chiffre, la ministre, elle le donne. Cécile Hernandez, ce sont vos 4e Jeux paralympique. Je vais me permettre de révéler votre âge. J'espère que vous m'en voudrez pas. Vous avez 51 ans. C'est incroyable d'être là, toujours au plus haut niveau. Vous avez décroché une très belle médaille d'or à Pékin en 2022. Est-ce que c'est pour revivre ça que vous êtes là aujourd'hui?
Ben oui, très honnêtement. Alors l'âge, c'est vrai que ça détermine mon chemin de vie, mais ça ne détermine absolument pas... Ça entache absolument pas ma passion, parce que ma passion reste toujours intacte. Et j'ai vécu de telles émotions à Pékin que, ben, hier, après les trainings officiels, le premier jour de training officiel, j'étais dans la télécabine qui nous remonte au départ et j'avais appris que j'avais fait des super temps sur les trainings officiels et je me suis mise à pleurer. Mais j'en parlais avec mon préparateur mental le soir, il m'a dit mais c'est pas grave, c'est de l'émotion, c'est beau. Ça veut dire que en fait je me voyais un peu en train de revivre ce que j'avais vécu à Pékin. Là je me sens bien. Je remercie Marie, j'en profite parce que Marie elle est sur tous les fronts, elle essaie de faire en sorte que tout soit parfait. Et aujourd'hui, ben tout est parfait grâce à toute l'équipe qui nous entoure. Je pense que tous les athlètes sont ravis. Nous, on est réunis dans des blocs au village de Milan Cortina. On se croise, on est tous ensemble à table. Donc c'est vraiment, pour moi, à ce jour, ce sont vraiment des jeux réussis en termes d'ambiance et en tant que porte-drapeau. C'est comme ça que j'avais envie de vivre les choses et c'est Marie qui m'a donné envie d'être aussi porte-drapeau, même si j'avais pas de concurrence parce que j'étais la seule éligible, mais j'étais pas sûre de vouloir y aller. Et Marie m'a dit, mais tu vas voir, c'est une formidable énergie, ça va te porter. Donc je l'en remercie. Et je l'en remercie aussi, elle est Elle est inquiète de tout, de nous, en fait. On a l'impression qu'on est tous, même malgré mon âge, on est tous ses enfants. Elle a envie, hein, en tant que chef de mission, que tout soit absolument parfait pour nous, mais aussi pour notre famille, et savoir que nos familles sont bien, soient épanouies, soient à l'aise. Et ben, pour nous, ça nous donne encore plus d'énergie. C'est vrai qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin de chez nous. On revient en Europe, donc on est tous alignés. Aussi pour les gens qui n'ont pas pu faire le déplacement sur le créneau horaire. Et donc moi, j'ai vu les messages, alors que j'ai un peu coupé mon téléphone, mais vu les messages que je reçois, oui, j'ai envie de vibrer pour les mêmes émotions que celles que j'ai vécues à Pékin, parce que il y a que le sport pour donner de telles émotions, et savoir en plus qu'il y aura ma fille qui est absolument ma raison de vivre au pied de la piste. J'ai envie, je vais mettre à pleurer là, donc voilà, j'ai envie de vivre ça, et je vais tout faire, et je travaille dur depuis 4 ans pour vivre ça.
On nous espère en tout cas une médaille d'or sous les regards de vos proches et sous le regard de votre fille. Effectivement, ce serait un très bel aboutissement. Je voudrais qu'on aille au standard de France Inter où nous attend Corinne. Bonjour Corinne et bienvenue.
Oui, bonjour.
Je vous laisse poser votre question.
C'est étonnant parce que je vais reprendre un peu ce qu'a dit votre interlocuteur précédente. Elle parle de sport et d'émotion. Mmh. Moi, j'aimerais que ça soit accessible à tout le monde, quelle que soit la classe sociale et quelle que soit la personne. Parce que combien coûtent ces Jeux Olympiques? Je voudrais savoir combien a coûté, que ce soit paralympique ou non paralympique, combien vont coûter ceux de 2030, et surtout l'accessible à le sport, accessible à tout le monde. Quand je vois le nombre de soigneurs autour d'un... et d'entraîneurs autour d'un sportif,
athlète.
Voilà, d'un athlète. Donc voilà, j'aimerais que ça soit un peu disséminé, que ça soit essaimé autour de soi.
Merci Corinne pour votre intervention. Alors Marie Bauchet, je n'ai pas vous demandé d'être la porte-parole de toutes les Olympiades, mais qu'en pensez-vous effectivement? Est-ce que cet argent, il pourrait être aussi utilisé pour l'accès au sport pour tous, et notamment aux personnes handicapées?
C'est effectivement l'enjeu de ces jeux. Il y a effectivement les performances sportives de nos athlètes, leur rayonnement, mais en fait, ces performances derrière sont souvent des inspirations et permettre aux personnes en situation de handicap de trouver leur voie sportive. Et finalement, c'est aussi une très belle façon en fait de montrer que malgré un handicap, en fait, on peut pratiquer. Et en fait, on voit aussi que ces jeux qui prennent de l'ampleur, ces Jeux paralympiques qui prennent de l'ampleur médiatique aussi, permet aussi à nos athlètes de se professionnaliser, du coup d'augmenter aussi leur niveau, de professionnaliser nos équipes, de professionnaliser nos staffs, nos entraîneurs, et qui permettent aussi du coup d'accueillir de mieux en mieux, de plus en plus, et de mieux faire connaître ce mouvement sportif qui permet à des personnes en situation de handicap de s'épanouir dans le milieu du sport.
Est-ce que vous avez senti une évolution, Marie Bauchet, vous qui avez connu les Jeux paralympiques de Sochi, de Pyeongchang, de Pékin et là de Cortina? Est-ce que vous avez senti que l'intérêt médiatique, les spectateurs, la qualité de l'accueil, est-ce que tout ça a évolué?
Oui, clairement. Pour avoir vécu Vancouver en 2010 et pour être aujourd'hui dans ce rôle de chef de mission en 2026, j'ai vraiment vu une évolution. Je pense qu'on peut quand même noter que peut-être c'était 2012 à partir de Londres. Je pense que la proximité finalement avec le territoire français, et ça nous montre aussi l'importance d'organiser des Jeux à proximité de chez nous, ou chez nous, comme en 2024 à Paris, qui avait vraiment mis aussi l'accent sur l'organisation des Jeux paralympiques et sur leur mise en valeur et leur rayonnement. Font que effectivement les choses évoluent. Aujourd'hui, il y a des athlètes qui sont professionnels. C'était absolument pas le cas en 2010. En 2010, on avait très peu de médias dans les aires d'arrivée. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de médias qui est accrédité, qui est sur place, et d'autant plus qui sont en France, mais qui suivent quand même les performances de nos athlètes. Et donc ça, forcément, ça fait évoluer notre milieu. Ça fait effectivement qui se professionnalise, et ça permet d'inspirer encore plus et de permettre aussi de développer notre relève et nos équipes de France.
Alors je voudrais vous lire une autre intervention d'une auditrice, Florence, qui nous écrit: merci à Marie Bauchet de soutenir, de représenter l'équipe paralympique, et félicitations à Cécile Hernandez, je suis admirative, c'est un modèle face au combat du handicap. C'est vrai que Cécile Hernandez, vous n'avez pas caché que ces derniers mois de préparation avaient été difficiles parce que vous combattez notamment votre maladie, la sclérose en plaques. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous savez que vous êtes un modèle finalement pour certains et certaines de ceux qui vous regardent?
Ben, un modèle, je suis loin d'être parfaite, c'est certain, mais en tout cas je montre une voie, je montre le champ des possibles. qu'après, moi, j'étais valide hein, jusqu'à l'âge de 28 ans et puis je me suis réveillée un matin totalement paralysée des jambes. Je montre qu'après un changement brutal de vie, tout est possible et qu'il faut y croire. On fait les choses, on arrive à faire quasiment la même chose qu'avant, mais on le fait peut-être plus lentement, plus différemment. Il faut juste accepter et puis il faut surtout pas se mettre des... Moi, je me suis mis des barrières pendant les trois premières années après le diagnostic parce que ça a été un choc tellement brutal et j'ai basculé dans ce monde du handicap que je ne connaissais absolument pas. Je parle de ça il y a 23 ans et pour rebondir sur ce que disait la dame précédemment, aujourd'hui, il y a une vraie évolution aussi sur les clubs inclusifs qui fait que moi, en fait, je suis sortie du sport parce qu'on m'a dit, voilà, il faut faire le deuil du sport. Aujourd'hui, même si...
Vous ne l'avez pas fait.
Je l'ai fait pendant 11 ans, donc je l'ai vécu différemment, le sport. Et puis, ce sont des rencontres grâce au handisport qui m'ont permis de revenir à cette carrière de haut niveau. L'âge dans le handisport, la moyenne d'âge est un peu plus élevée, ou on va dire beaucoup plus élevée quant à la mienne, mais du coup, du fait que c'est souvent des accidents qui arrivent au cours de vie, donc il faut accepter ce changement de vie. Et le sport est un formidable chemin de une voie de reconstruction incroyable. Et on m'a demandé hier, si je devais résumer les Jeux paralympiques en un mot, moi je disais diversité parce que c'est une diversité de handicap, diversité de pays, diversité de chemin de vie et diversité de sport aussi. Et aujourd'hui, on voit une vraie évolution grâce à les médailles de Marie, les quatre médailles d'or déjà de Sochi ont vraiment fait évoluer la médiatisation des parasports d'hiver. Moi, être un modèle, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a plein. Aujourd'hui, il y en a plein de modèles dans cette équipe de France. Nous sommes que des modèles grâce à nos chemins de vie, notre résilience et nos objectifs. Après, on ne fera pas tous du sport de haut niveau, mais l'important, c'est de faire ce qu'on aime et d'accepter cet handicap et la voie qui nous ouvre.
Bon, en tout cas, ça donne très envie de suivre vos performances dans les prochains jours et de soutenir à fond cette délégation française. Merci à toutes les deux. Céline Hernandez, vous êtes championne paralympique de snowboard cross, porte-parole de la délégation, porte-parole, porte-voix, porte-drapeau aussi et surtout de la délégation française. Ce sera notamment à la cérémonie d'ouverture ce soir. Et merci à vous, Marie Bauchet, chef de mission de la délégation française. Je permets aussi de saluer et de remercier toute l'équipe de France Inter sur place qui vont nous faire vivre ces Jeux paralympiques. Tout de suite, le feuilleton. Début de la semaine, vous le savez, nous arpentons les rayons du bazar d'électricité, le temple parisien de l'ampoule, 140 ans d'existence et qui a su résister à toutes les modes et à toutes les crises. Mais est-ce que ça va continuer? Pour résister à la concurrence de la grande distribution, le bazar monte désormais en gamme. Alixis Morel est avec l'un des deux patrons, Romain Pérez, dans l'espace le plus récent, dédié aux luminaires contemporains et au design.
Quand on a racheté en 2002, donc c'était vraiment la maison historique du 34 boulevard Henri IV, et s'est posé la question assez rapidement, au bout, je dirais, de 5 ans, d'un petit manque au niveau des luminaires contemporains. Pour le coup, c'est nous qui l'avons apporté au bazar d'électricité. Voilà, ça a été notre griffe, quelque part, et en même temps, la volonté de faire évoluer le bazar d'électricité dans l'époque, voilà, tout simplement. C'est la petite boîte à bijoux. On a par ici un lustre qui a un effet assez un petit peu pop, mais c'est un peu pop avant l'heure, par exemple. C'est un fabricant des années 60 italienne qui est réédité très récemment. Cet appareil s'appelle Sputnik. On comprend pourquoi, avec cette composition-là, avec des couleurs. On a notre chouchou, ici. C'est un fabricant français, même made in Grand Paris. D'une grande légèreté, d'une grande pureté esthétique, très éclairant. C'est censé représenter une galaxie en fibre de carbone, donc quelque chose qui fait 800 grammes pour un appareil qui fait 2 mètres par 1 mètre 42. Là, on commence à être dans du prix lustrerie, quoi, du prix vraiment, vraiment haut de gamme. On tient quand même vraiment à rester, si possible, sur une fabrication plutôt européenne. Je ne vais pas dire locale, parce qu'en France, malheureusement, on manque un petit peu d'entreprises pour couvrir tous les aspects du luminaire. On n'a plus vraiment cette richesse-là. Il y a clairement eu une rapide disparition des fabricants français. Ils ont été vraiment agressés très fortement par tout ce qui était importé d'Asie, quoi, tout simplement, et la grande distribution. Donc eux, ils sont vraiment tous morts ou ils ont dû se réinventer. L'exemple même, c'est que nous avions avant le salon du luminaire qui était Porte de Versailles, qui accueillait essentiellement des fabricants français. Et ce salon n'existe plus. Mais le choix de rester sur une fabrication européenne, nécessairement, ça a une implication sur les prix et sur les coûts. Puis on a été obligé, encore une fois, de monter en gamme parce que on sentait cette concurrence de la grande distribution et asiatique qui arrivait, c'est pas encore le cas il y a 20 ans, enfin beaucoup moins, mais qui arrivait très fort. On en fait un tout petit peu de produits venant d'Asie pour fournir des appareils à des prix corrects. Malheureusement, c'est devenu quasiment incontournable. Celle-ci, cette petite lampe, donc, effectivement, qui n'est pas très facile à décrire. On a des petites pattes de poulet, un cône noir avec la petite plume sur la tête de Bip Bip et un socle blanc. C'est un créateur allemand bien connu qui représente Bip Bip, de Tex Avery pour Bip Bip et le Coyote. Là, on est vraiment sur une pièce artistique, une création, mais c'est souvent des connaisseurs voilà, qui apprécient ce genre de création.
J'en profite pour poser une dernière question. Ouais. Comment vont les affaires ?
Comment vont les affaires ? La période est un peu plus complexe, on va dire, qu'avant le Covid. On va être très clair là-dessus. Il y a vraiment des habitudes qui ont changé des Parisiens, des consommateurs, mais des Parisiens en particulier, je pense. Hein. Il y a une vraie transhumance le week-end quand même qui existait beaucoup moins avant. Le samedi, typiquement, qui pour nous est la journée la plus forte de la semaine, qui est toujours la journée la plus forte de la semaine, hein, a clairement diminué en chiffre d'affaires de manière importante, de manière significative. Mais bon, écoutez, on s'adapte. Hein, le bazar est là, il a traversé deux guerres mondiales. Il est arrivé juste après la guerre de Prusse. Il a fait la crise de 29, il a fait les chocs pétroliers. Donc bon, écoutez, le bazar, ça reste le bazar. Et c'est le meilleur vendeur de notre magasin, le bazar. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Une semaine dans leur vie au bazar d'électricité. Feuilleton signé Alexis Morel avec Vincent Godard et Antoine Larcher à la réalisation.
France Inter. Le 13-14.
13h50, c'est la France des cimes et des océans. Comme tous les vendredis avec vous, Virginie Troussier, on va s'intéresser aujourd'hui au vent. Cette force invincible, invisible aussi, les deux, ça marche, qui ne laisse jamais indifférent.
Vendredi dernier, Céline, une amie m'a emmenée au théâtre au 13e art, place d'Italie, à Paris. C'était une surprise, je ne savais pas ce que j'allais voir, je n'en avais pas la moindre idée. Puis, le rideau s'est levé et un vent fort a soufflé de cour à jardin. Les danseurs ont ondoyé dans son souffle, porté par de puissants ventilateurs disposés de part et d'autre de la scène. Ils surgissaient du hublot, perçaient dans le décor de rouille, s'envolaient dans la direction du vent ou affrontaient les risées contraires. Cette danse contemporaine, commandée par la course du Vendée Globe, c'est Zéphyr, du chorégraphe Mourad Merzouki. La traversée est grisante, on en ressort comme chahuté par la houle.
Alors on va rappeler Zéphyr dans la mythologie grecque et le dieu du vent de l'Ouest.
Tout à fait, Zéphyr est représenté sous les traits d'un jeune homme aux ailes de papillon. Pour de nombreuses cultures, vent et dieu étaient indissociables. Dans le français argotique, Zéphyr a donné l'expression zeph pour désigner le vent. Dans le monde, il en existe tant. Le chinook, le meltem, le levante, le garbi, la bora. Chacun a sa personnalité. En France aussi, on vit avec le vent de son paysage. Dans le nord et l'ouest, on trouve entre autres le nordais, le norrois, le surrois. Dans les Alpes, la bise, le faune. Puis dans le sud, le mistral, la tramontane ou encore le marin. Chaque région possède son vent, sa pulsation, sa minutie.
Alors, quels sont les bienfaits du vent dans nos régions ?
Eh bien, il faut savoir d'abord que le vent et la vie sont liés au plus profond du langage. Le terme grec pour vent, anemos, est la racine du latin anima, qui veut dire âme. Le vent est donc une force essentielle pour la planète. Il met les océans en mouvement, transporte les nuages, participe à l'équilibre du climat. Il distribue la chaleur sur la terre et joue un rôle majeur dans la pollinisation des plantes. Son souffle structure les paysages et cette force invisible est aussi devenue une source d'énergie.
Et puis les vents influencent aussi nos humeurs, nos tempéraments.
Oui, qui n'a jamais gonflé ses poumons dans la brise ? Qui n'a jamais frissonné au cœur de la tourmente ? Le vent dialogue avec nous et nous arrache au confort d'une vie trop uniforme. Dans sa nouvelle Tramontane, l'écrivain Gabriel Garcia Marquez écrit qu'elle porte les germes de la folie, menaçant de faire sauter les amarres des fenêtres. Après son passage, dit-il, on vieillit de plusieurs années. Le Mistral, lui aussi, impose son tempérament dans la vallée du Rhône. À Arles, Vincent Van Gogh racontait peindre plus vite lorsqu'il se déchaînait. Dans ses lettres, il confiait « Ne cherchons-nous pas tous une intensité de pensée au lieu d'une tranquillité du toucher ?» Et Albert Camus exposait au vent sec et chaud de la Méditerranée, le Tchéili, la variante locale du Sirocco, écrivait dans son très beau livre « Noce » qu'il lui arrivait, je le cite, « de perdre conscience du dessin qui traçait son corps et de sentir à la fois un détachement
détachement de lui-même et une présence au monde. Ce sentiment, que l'on éprouve aussi en sortant du spectacle Zéphyr, rappelle peut-être une chose, face au vent, au désordre, à la tempête, mieux vaut se fondre dans leur mouvement plutôt que de chercher à les dompter ou à leur résister.
C'est presque une maxime de vie, finalement. Le spectacle Zéphyr qui se joue jusqu'à dimanche au 13e art à Paris et il reste des places. Merci Virginie Troussier de C'est la France à C'est une chanson. Et c'est avec vous Julien Baldacchino et votre invité à la voix si reconnaissable qui est comédien.
Régis Laspalès qui se lance pour la première fois seul en scène au Théâtre des Nouveautés à Paris où il fait à nouveau vivre son univers d'humour absurde en parlant de la vie d'artiste. La chanson dont il a choisi de parler, il la cite même sur scène, c'est « Je me voyais déjà » de Charles Aznavour.
C'est la chanson auquel tous les artistes, à leur début, les comédiens, les acteurs, les chanteurs, avaient les paroles dans la tête. Se voir en haut de l'affiche, être célèbre, être reconnu, exister enfin. Et en fait, dans cette chanson, il parle de ça, c'est ses débuts. Et le rêve, c'est d'exister. Et alors, ce qui va suivre, c'est la carrière. Ou pas, mais en l'occurrence, oui, en l'occurrence, une belle carrière.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
À quel moment vous avez su que vous vouliez être en haut de l'affiche ?
Ah, en fait, j'ai peut-être pas tout à fait raisonné comme Charles Aznavour. Au départ, il y a la découverte, le plaisir d'être sur une scène quand on fait un cours de théâtre qui agit comme un révélateur. On découvre qu'on est fait pour ça et on y prend du plaisir. Donc oui, j'ai eu envie d'en faire mon métier. Ensuite, être en haut de l'affiche, ça m'est venu en... Je me disais que déjà, si j'avais un petit rôle au théâtre, ça serait déjà formidable comme de faire ça tous les jours. Je serais déjà privilégié. Et puis... Après, je me suis rendu compte que ceux qui avaient les grands rôles, c'est eux qui apprenaient le plus, qui progressaient dans leur métier. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut accéder aux rôles plus importants. Être en haut de l'affiche, ça permet ça. Parce que celui qui est une heure et demie en scène, ben évidemment, il développe plus de choses, il apprend plus son métier que celui qui est là 5 minutes.
De voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé. Je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent.
Alors, c'est une chanson de 1961 que Charles Aznavour avait d'abord proposée à Yves Montand.
Avant de l'interpréter finalement lui-même sur la scène de l'Alhambra. J'ai demandé à Régis Laspalès si aujourd'hui, il se sentait arrivé en haut de l'affiche.
Bah, j'ai été en haut de l'affiche assez rapidement, avec mon... acolyte, on a été au de l'affiche, on a fait les plus grandes salles pendant 20 ans. Et puis, en même temps, d'ailleurs, parallèlement aussi, déjà dans des pièces de théâtre. Maintenant, est-ce que on est satisfait ? C'est un peu ça, votre question. Je dirais qu'un artiste, un vrai artiste, n'est jamais satisfait. On espère toujours faire mieux et on espère tout reste toujours à faire. Être seul en scène, en fait, je ne l'avais jamais fait. Alors, en fait, ça m'amusait beaucoup d'essayer. En fait, c'était déjà une curiosité. Et puis, bon, j'ai écrit, j'ai été inspiré, mais... C'est une nouvelle, encore une nouvelle expérience.
Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats.
Lui, il parle des débuts, où il a dû galérer sûrement dans les cabarets, tout ça. Moi, j'ai pas connu ça. Je peux pas dire que j'ai galéré avant. Ça fait pas forcément partie. C'est un peu dans la mythologie de l'artiste, mais comme je dis toujours, si on n'a pas galéré au début, on peut galérer après.
La première chose que vous m'avez dite, c'est que la chanson « Je me voyais déjà », c'était un peu la chanson de tous les artistes, qu'elle accompagnait un peu la vie, l'existence d'un artiste. Vous, elle vous a suivi, elle vous a accompagné, vous l'avez entendu à différents moments de votre vie, de votre carrière, de différentes manières.
Oui, moi, j'aime bien entendre toutes ces chansons, elles sont génialement écrites. C'est quand même... Il y a un talent d'écriture incroyable, et d'interprétation aussi, hein, parce que... En fait, on se rend compte que... Je la chante pas, moi, mais... Il va très très vite, c'est incroyable. Il y a une élégance, il dit tout avec comme ça, des mots assez simples, mais
tout est dit.
Extraire le texte d'une chanson sans la chanter pour le dire, le lire sur scène, qu'est-ce que ça implique en termes de jeu, de comédie ?
Ben quand c'est bien écrit, comme c'est le cas là, pour Je me voyais déjà, on peut aussi la dire comme on dirait un poème, la dire comme ça, simplement, la parler, et ça passe. Et même son musique.
Moi j'étais trop pur ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Je me voyais déjà de Charles Aznavour. C'était donc le choix, Julien, de Régis Laspalès.
À applaudir au Théâtre des Nouveautés à Paris dans Régis Laspalès parle enfin.
Merci Julien Baldacchino. Merci aussi à celles et ceux qui ont fabriqué le 13-14 cette semaine. Mathilde Imberti, Cécilia Arbona, Sébastien Sabiron à la rédaction en chef, assistés de Nicolas Sabat, Anna Lessence et Stéphane Rousset, Aurore Mansip à la programmation, à la technique Sofiane Aktib, Céline Guéribi, Alix Barrois, Florian Dorimini et Paola Collin. La Terre au Carré à suivre. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Céline Aslo.
Quel est le programme du jour ?
Eh bien, je reçois un agroclimatologue et chasseur d'orage, Serge Zaka, est mon invité au Carré.
À tout de suite, Mathieu.